précision, une question. La précision, le Gabon, un pays que je connais bien, à part les Portugais qui sont venus au 16e et 17e, il y avait les Américains qui sont arrivés en 1825 pour y ramener des esclaves noirs. Bon, et la question, je veux parler des relations un peu ambiguës entre l'État français et l'évangélisation. Le côté Sabré Goupillon qui était très prenant.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Les relations entre les missionnaires, qu'ils soient catholiques, évangéliques, etc., le pouvoir colonisateur, c'est une relation ambiguë, évident. J'en ai peu parlé, je pense, parce que je ne peux pas parler pour vous, aussi rapidement. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, en France, où on était très laïque, surtout à l'époque, c'était la période pleine, très laïque, dans les colonies, on s'est appuyé sur les missionnaires. Bon, donc il y a eu un double jeu. Très laïcard, si je puis prendre cette expression en France, et s'appuyant sur les missionnaires en Afrique. Je l'ai dit d'ailleurs, pour l'enseignement, les missionnaires étaient antérieurs à la colonisation, et tout le secteur de santé. Le petit secteur de santé, c'était surtout les religieux et les religieuses. C'était évident.
Il n'y a pas eu d'unanimité, me semble-t-il, pour la colonisation, parce que pour des raisons nationalistes, les gens comme Clémenceau, la colonisation, il faut rendre hommage à Gide. Dans les années 30, même avant, a fait un voyage au Congo en relatant exactement tout l'horreur de ce qui
s'est passé. Bon, il y a eu, effectivement, si je puis dire, il y a eu des anticolonialistes, c'est vrai. Bon, j'en ai cité quelques-uns, ils ont été minoritaires. Un homme comme Jaurès a toujours été minoritaire, y compris pour en ce qui concerne la colonisation, en ce qui concerne la guerre 14, puisqu'il en a été tué pour ça. Donc, il faut bien voir l'hyper-nationalisme. Et Gorin parlait de la droite française. Effectivement, la droite française n'était pas coloniale à l'époque. Un homme comme Déroulède, qui est un homme comme Déroulède, mais en fait, Déroulède, c'est aussi le général, comment il s'appelle, Boulanger. Déroulède, un homme comme Déroulède, ne voit que la ligne bleue des Vosges. Et par conséquent, il ne faut pas détourner son énergie de la reprise de l'Alsace Lorraine. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le discours de Jules Ferry un passage que je n'ai pas cité, ce n'est pas le temps, mais où il fait allusion à cela. Où il dit très nettement, il ne faut pas se laisser tourner vers le passé, c'est-à-dire la ligne bleue des Vosges, quoi, enfin, là-bas, ne restons pas sur le passé, mais allons vers un autre chemin, prenons le chemin de la puissance de la France et du rang de la France. Et c'est en réponse à cette droite.
S'il vous plaît, monsieur Armand, alors la civilisation, s'il n'y avait pas eu de colonisation dans toute l'histoire, comment se seraient répandues des civilisations avancées qui ont fait avancer le reste de l'humanité ? Quand même, nous, la civilisation gallo-romaine, ses voies à pied, et puis etc., la civilisation grecque, tout ça, tout ce que ça nous a appris, c'était des sortes de colonisations, même culturelles, que l'on ne peut pas refuser. Mais c'est évident, là, c'est pas la colonisation fratricide, etc. Mais alors, là, vous disiez tout à l'heure que la Tunisie, elle venait de signer la fin de sa colonisation. Et pourtant, moi, ce que je trouve que dans, quand on regarde l'histoire, quand il y a des conquêtes, cela permet aux gens, quand il n'y a plus de travail chez eux, je pense par exemple même à l'Alsace-Lorraine, il y a beaucoup d'Alsaciens qui sont partis ensuite en Algérie. Quand il y a eu la maladie de la pomme de terre, etc., en Irlande, les gens sont partis en Amérique. Et là, la Tunisie, l'Égypte peut-être, c'est ce que l'on craint, ces gens-là vont avoir des difficultés économiques épouvantables. Ils ont appris le français, ils se sentent des droits envers nous, anciens, et vont venir certainement chez nous. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est ça, la conséquence, à mon avis, de la colonisation, c'est ces grandes migrations pour aller vers les endroits où il y a du travail. Alors, c'est une chose qui me fait peur et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez.
Bon, écoutez, oui, c'est une très bonne question, mais alors il faudrait tout un débat, mais il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Bon, il est évident que le monde a malheureusement progressé, a toujours progressé par guerre, par occupation. Bon, gallo-romain, oui, hein, nous sommes, nous le fûmes. Bon, hein, mais il faut bien voir que les Romains, par exemple, hein, ont toujours eu pour but de faire en sorte que les gens qui entraient dans l'Empire soient des citoyens romains, des citoyens de Rome. Bon, même si cela ne s'est pas fait immédiatement pour tous, cela s'est fait pour tous, hein, en définitive. Bon, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour l'histoire de la colonisation anglaise ou française, hein, où on a donné des citoyennetés, des droits à un petit nombre de gens, hein, bon, d'ailleurs des gens comme Léopold César Senghor, hein, académicien de France, bon, etc., ce qu'on voudra, hein, bon, il y a un petit nombre de gens et qui ont été d'ailleurs les premiers à être les libérateurs de la colonisation. C'est eux. Hein. Bon, Nkrumah, qui sera le président du Ghana et qui signera l'indépendance du Ghana, a été formé à Oxford, enfin dans les écoles de Londres. Il n'y a pas de problème à ça. Hein. Bon, il y a eu quand même des échanges positifs. Mais au total, la majorité, je pense par exemple à l'Algérie, on n'a pas eu cette volonté politique de donner une citoyenneté à les Algériens musulmans. Hein, bon, on n'a pas eu cette volonté. On n'a pas pu. Enfin, il faudra en discuter. Hein, bon, voilà la différence, je crois, hein, entre Rome et puis ce qui s'est passé.
Au niveau de l'Afrique occidentale, il y avait quand même une. Les citoyens, c'était les gens qui étaient nés à Dakar, à Saint-Louis et à Gorée. C'était les seules personnes qui étaient considérées comme des citoyens français. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui, dès que leur femme tombait enceinte, ils les envoyaient à Dakar ou à Saint-Louis pour aller accoucher. Les autres étaient des sujets. Il faut quand même reconnaître une chose au niveau de la colonisation, c'est qu'à l'heure actuelle, si en Afrique occidentale et en Afrique centrale, les gens se comprennent, c'est la langue française qui permet la communication entre nous tous. Sans cette langue, moi, je prends par exemple le cas du Mali dont je suis originaire. Au Mali, il y a presque 44 langues différentes. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse se comprendre? Moi, le coin du monde où je me suis trouvé le plus étranger, c'est au nord du Mali. Quand je suis allé, on me prenait pour un Américain parce que j'avais une caméra et un appareil photo, et j'étais accompagné par une dame qui avait la peau blanche. Alors, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas les coutumes, je savais rien. C'était vraiment étranger chez moi. Alors, vous voyez, les découpages des nations font que les gens sont étrangers chez eux. Moi, quand je quitte le Mali et que je vais en Guinée, je suis chez moi. Je ne suis pas guinéen. Je comprends la langue, je comprends les coutumes. Il y a plein de choses que je comprends. Quand je vais au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso ou à Ouagadougou, je comprends les gens. J'ai la même culture qu'eux, mais je ne suis pas burkinabé. Voilà, ce sont des choses, disons, les découpages territoriaux a été quand même quelque chose d'assez bizarre.
C'est pas bizarre, il était inconscient. Inconscient des réalités humaines. Hein?
Ça laisse des choses.
Je voudrais dire deux choses. La première, c'est avant la guerre 14, à partir de 1910, c'est la puissance des armes à feu individuelles, des fusils. Un brave colonial de je ne sais trop quel régiment d'infanterie, marine, aligné 15 coups au but à la minute. Ça veut dire que s'il y a une tête en face, il y a 15 têtes qui sautent. Hein. Il ne faut pas oublier la puissance des armes à feu. Tout ça, bon, autre chose. La richesse de Eiffel, elle est due aux ventes de ponts que l'on pouvait jeter sur les rivières du Tonkin. C'est là qu'il a fait sa fortune. Autrement dit, admettons que c'est de la prévarication, je ne sais pas.
Non, c'est pas de la prévarication, c'est l'esprit du temps. Et c'est vrai que, bon, je n'ai pas insisté sur les côtés politiques. Parce que je vous l'ai dit, je pense que les côtés, les affaires, comment dire, matérielles, hein, positives, hein, que la colonisation a laissées, ne peuvent pas être mises en balance avec la dignité des hommes. C'est tout. Hein, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu des côtés positifs. Et en particulier, je reviens sur ce que notre ami malien, enfin français, hein, mais originaire du Mali, a dit, c'est-à-dire... c'est que la langue sert maintenant à tous les États africains. Le français, ou l'anglais, ou le portugais, ou etc., sert de langue de communication entre des groupes qui ne parlent pas les mêmes langues. C'est évident. Hein. C'est la même chose qui se passe en Inde, hein, où nous avons une multiplicité de langues, et où l'anglais devient la langue de communication. Ça, c'est évident. Ça, incontestablement. Hein. C'est incontestablement. Et je voudrais revenir sur les quatre cantons, les quatre communes dont tu as parlé. Hein. J'en parle dans le cours. Effectivement, là, ils avaient droit à un député et un conseil général. Hein. Saint-Louis, et puis, etc. Là. Bon. Donc, c'était spécial, ça date du XVIIe siècle, ça date, bon, une présence française, et là, on a donné un député, un conseil général, une municipalité, et il n'y avait que là. Oui, 89, l'Assemblée
nationale. Quand on a l'occasion de parler avec des jeunes Algériens, jeunes Marocains, jeunes Tunisiens et jeunes Tunisiennes, sans oublier les jeunes filles, comme ces gens-là parlent le français et qu'ils disent que c'est bizarrement leur langue maternelle. Quand j'ai demandé à des Algériens pourquoi ils n'aimaient pas avoir des livres en anglais dans l'université à la suite de la réforme, où on a essayé d'enlever des livres en français et de faire une éducation en anglais, ils ont dit « mais on nous arrache notre langue maternelle ». Je vous jure qu'ils m'ont dit ça. Et alors, quand on leur parle, ils se sentent des droits envers nous pour venir travailler, pour qu'on continue à avoir une espèce de charte ensemble. Et ils attendent énormément de nous. Ça, c'est, hein, et puis surtout les femmes aussi. Hein.
Je n'ai pas répondu à votre question première, qui était les flux migratoires. Bon, et c'est vrai, moi je pense tout simplement et bêtement que on ne peut pas avoir colonisé sans que, eh ben, il y ait très humainement des retours. Et que il est assez normal que des gens qui ont, pour des raisons ici, fait des études en français, qui parlent le français comme vous et moi, ou à peu près, hein, bon, eh bien, on est une, disons, une accointance. Et alors, c'est la raison pour laquelle moi, je suis quand même étonné de notre monde. Il faudra bien qu'on s'y habitue. On parle de mondialisation. Et généralement, on est pour. Généralement. Bon. Mais à condition que ça ne touche pas les hommes. On veut bien des choses. On veut bien des marchandises. Mais dès que ça touche aux hommes, on a peur. Bon. On a peur et pourquoi? Eh bien, on avait peur autrefois des Polonais qui arrivaient après les deux guerres. Hein? Les Italiens, les Rital, hein? Bien. Si Bernard Castiglioni était là, il nous en parlerait. Hein? Bon, il n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Bon, bien. Les Rital, etc. Hein? On a toujours eu peur de quelqu'un, de l'autre. L'autre fait peur. Hein? Eh bien non, il faut surmonter cette peur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Bon, ils sont moins bien habillés que nous, ils sont peut-être, bon, ils sont moins bien logés, donc ils sont moins propres, parce qu'ils n'ont pas toutes les commodités, que sais-je. Et ça compte, ça. Hein? Dans le loup, comme on dit. Hein? Le loup. Bon, ça compte. Bon, alors, on dit, il y a aussi la religion musulmane. Attention. C'est la raison pour laquelle je place vraiment mon espoir dans la Tunisie, comme je continue de le placer en la Turquie. Qu'on le veuille ou non, c'est une erreur de mettre la Turquie à la porte de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons là un État qui est laïque, d'accord, il y a un gouvernement que l'on dit islamiste, Erdogan, hein, mais ils ont mis de l'eau dans leur vin, hein, c'est une expression franco-française. Ils ont mis donc, ils sont adoucis, et je pense que si la Tunisie, l'Égypte, non, c'est rien, mais si la Tunisie pouvait prendre un chemin encore plus démocratique, mais même s'il y a quelques islamistes dans le gouvernement, hein, c'est bon, c'est pas la mort, mais la peur, ça fait faire des bêtises, hein. C'est ma réponse.
Je ne crois pas que ce soit la peur, de même que pour l'héritage à l'époque, si vous voulez, mais je crois que simplement, comme Ragnar l'a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et je crois qu'on est beaucoup plus dans cette histoire-là. Hein, beaucoup plus, si vous voulez, que la peur. Je ne crois pas que ce soit la peur. Je crois que cette crainte. Qu'a dit Rocard, quoi, en fait.
Mais alors, c'est la phrase de Rocard qu'on a toujours tronquée. Hein, et derrière, ben, il faut en prendre sa part. Hein? Alors ça, on a toujours oublié, hein? Et c'est comme ça qu'on fait dire à quelqu'un qu'il n'a pas dit.